séance et en donnant la parole. Ce qui n'a rien à voir avec l'interactivité machinique, enfin rien à voir, à distinguer de l'interactivité machinique, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup écrit là-dessus, donc je ne vais pas le développer, l'interactivité machinique n'a d'intérêt que dans la mesure où elle est au service d'interactions. Les interactions, c'est ce qui donne le sens. L'interactivité, c'est quelque chose de déterminant dans, de la technique, le fait de pouvoir intervenir sur une image qui vous est présentée ou sur un texte qui vous est présenté pour lire une note, pour aller chercher un complément d'information, voire pour le modifier et ajouter un contenu, c'est une qualité que vous offrent les machines, ce qu'on appelle l'interactivité, qui est un concept informatique à l'origine, je répète, alors que l'interaction, c'est un concept psychosocial, et donc l'intérêt de l'interactivité machinique, c'est d'être mise au service de l'interaction, que cette interaction soit de groupe, que cette interaction soit cognitive, mentale, de quelque nature qu'elle soit. Et elle permet, cette interactivité, au service de l'interaction, elle peut permettre une plus grande individualisation des parcours. On a vu se développer des hypermédias, des multimédias, où justement, grâce à cette interactivité, l'apprenant pouvait choisir un parcours plutôt qu'un autre, etc. etc. Donc, interactivité machinique, c'est très important, mais à condition que ce soit mis au service des interactions. J'ai beaucoup travaillé sur les hypermédias, notamment sur les multimédias interactifs et les hypermédias, où on ne voyait que des choses qui bougeaient, des clics, des images, des choses qui s'animaient. Et ça a été étudié très bien par Jean-François Rouet, par des tas de gens, et où, au fond, on était, perturbé par tout ce qui était mis à notre disposition pour être interactif et l'objectif que l'on poursuivait, l'objectif d'apprentissage que l'on poursuivait. Donc, j'ai simplement rappeler le rôle, enfin je veux dire, c'est pas de rappeler le sens du terme interactivité, encore une fois machinique, qui vient de l'ordinateur, de l'informatique et l'interaction, et l'interactivité doit être au service de l'interaction, et de l'interaction signifiante dans l'apprentissage, c'est essentiel. J'ai noté, parce que j'ai travaillé dans ce domaine, et puis je crois que c'était assez juste, cette notion de spectateur, l'interactivité a introduit, oui, c'était quand on travaillait avec Jean-Louis Besbert dans un séminaire qu'on a. On a publié quelque chose, d'ailleurs, l'image actée, on l'a appelée, dans ce domaine, c'était très intéressant. C'est cette idée qu'avec l'interactivité, vous êtes toujours spectateur, dans une certaine mesure, puisqu'on vous donne une image, on vous donne un texte, on vous donne, etc. Vous regardez, vous écoutez, vous regardez, mais vous avez la possibilité d'agir, ce qui quand même change énormément la position du spectateur. Agir, je le dis sous cette forme, même avec une image, hein, si vous voulez que le programme avance, il faut que vous fassiez un geste. Sinon, hein, moi, je suis bien obligé d'appuyer sur mon truc, là. Ça passe d'une image à l'autre. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Le geste intervient dans l'interactivité. Et on avait trouvé ce terme de spectateur, que j'aime bien, c'est pourquoi je l'ai repris, mais enfin, on a chacun ses défauts dans ce domaine. Oui, j'ai noté, ne pas oublier, voilà, le spectateur apprenant, l'enseignant absent physiquement, il est présent intellectuellement. Bien évidemment, dans les anciens documents analogiques, comme dans les hypermédias, il est présent intellectuellement par les choix qu'il fait, les choix de contenu, les choix d'organisation, les choix de présentation, etc. Mais l'étudiant, l'élève, le formateur, lui aussi, il est positionné, grâce à l'interactivité, par la machine, il est positionné virtuellement et il est présent. Et il faut le secouer ou il faut le solliciter, mais intelligemment, pour que ça l'aide à apprendre. Et j'ai noté, contrairement à un slogan récurrent, la liberté de navigation, dont on a tellement parlé en disant, voyons, avant on était passif devant l'image, maintenant c'est formidable, on est dans l'interaction. Il ne faut jamais oublier que la liberté de navigation dans l'hyperdocument ou l'hypermédia n'est jamais que là où le concepteur a choisi de jeter l'ancre. J'avais écrit de cette façon et je suis toujours d'accord avec cette phrase. On dit liberté, mais liberté, le programme, il a été programmé, comme dit l'autre. Bon, il avait donc été programmé jusqu'à un certain point. Alors, il y a, je sais, d'énormes avancées dans ce domaine, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on a, on sait, tous vu beaucoup trop d'hypermédias et qui sont valables encore dans des dispositifs à distance où on a une activité, une interactivité machinique qui est très peu au service de l'interaction. Ça, c'est quand même toujours mon leitmotiv. Je renvoie aux travaux de Jean-François Rouet et d'Alain Tricot. Je cherchais le deuxième Tricot, qui ont beaucoup travaillé expérimentalement sur ça et ont montré aussi, d'ailleurs, qu'il fallait apprendre à lire en hypermédia. C'est pas évident, etc. Alors, j'en arrive au thème du e-learning. Bien évidemment, FAD, formation à distance et design pédagogique, parce que je suis toujours dans mes... Bon, excusez-moi, médiatisation des interactions, modalité d'échange asynchrone ou synchrone, je vais revenir un peu là-dessus, mais c'est pourquoi j'ai choisi cette définition du e-learning ou de la formation en ligne, parce que, bon, d'abord, c'est la Commission européenne 2000, donc on se dit, bon, c'est un peu stable, et puis je crois qu'elle est assez exacte, à condition qu'on prenne bien cette définition, c'est-à-dire qu'on ne dise pas que le e-learning, c'est une formation en ligne, parce qu'une formation en ligne, c'est bien insuffisant. Ça implique, je ne vais pas la relire, la définition que je vous propose ici et qui me paraît assez exacte dans la mesure où, si on veut qu'une formation en ligne réponde aux exigences d'une formation à distance, eh bien, il faut ne jamais oublier d'améliorer la qualité de l'apprentissage, faciliter l'accès aux ressources, on est toujours d'accord, et aux services, et puis on envisage le mieux la collaboration. Il y a eu beaucoup de définitions du e-learning, bien sûr, chacun a la sienne. Je me souviens que la fois dernière, quand Jacques Wallet est intervenu, toi-même tu es intervenu pour dire que le e-learning, ce n'est pas la formation à distance. On a évolué dans ce domaine. Maintenant, beaucoup de gens parlent de e-learning ou de formation en ligne à propos de la formation à distance. Je veux bien, moi ça ne me gêne pas, du moment qu'on est conscient et qu'on le sait qu'il ne suffit pas de mettre un cours en ligne, comme les MOOCs dont on parlait tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre un cours en ligne, fût-il un excellent cours, pour parler d'une formation à distance. Ne serait-ce que pour l'aide dont je parlais, mais ne serait-ce aussi que pour l'argument qui est souvent repris, la diplomation. Une formation à distance, digne de ce nom, c'est un contrat au sein, à l'issue duquel vous avez un diplôme, une attestation, etc. Une formation en ligne, la plupart, qui n'est pas une formation à distance, elle n'est pas encadrée institutionnellement, obligatoirement, et en tout cas, elle ne va pas jusqu'à la délivrance d'une attestation ou d'un diplôme, etc., etc. Donc,
la différence entre formation à distance et cours à distance.
Le cours, c'est là-dessus que tu étais intervenu la fois dernière, je m'en souviens maintenant, tu as raison, c'était cours, formation et cours, voilà. Donc, e-learning et formation à distance, c'est pas la même chose, mais je trouvais que cette définition du e-learning avait cet intérêt d'être quand même assez englobante. Alors, ça va nous amener, bien sûr, au problème du design, parce que là aussi, à partir du moment où l'enseignant délègue, d'une certaine façon, l'acte didactique, c'est-à-dire la conception du rapport au savoir, parce que c'est finalement ça, le savoir, il existe quelque part, dans ses grandes lignes en tout cas, l'enseignant en tout cas se l'est approprié, voire il l'a construit, ça arrive aussi, et il cherche à le médiatiser d'une certaine façon. Et donc il délègue au support technologique quelque chose qui est très difficile et qui est très important, qui est justement la démarche didactique. D'où, comme on l'a dit très souvent, là aussi une délégation sur le design qui reste quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas simplement comme ça, on va faire ça en un premier temps, puis ça en un deuxième temps. Alors, je vous ai donné exprès cette définition que j'ai empruntée aussi à Distance et Savoir. J'ai même donné la référence page 187 parce que je crois que c'est dans l'éditorial. Lieu d'interaction entre les facteurs respectifs de la technologie, ok, du projet didactique, d'accord, et l'attente des usagers. Moi, je la trouve très bien. D'abord, elle est simple, mais alors, elle est tellement simple que quand on veut s'y mettre et construire et concevoir une plateforme institutionnelle de formation à distance, intégrative et multifonctionnelle, pourquoi intégrative? Parce qu'on veut tout y mettre, la fonction d'enseignement, les éléments d'apprentissage, les outils du web, etc., etc., tout ça réuni, c'est ça d'ailleurs le design, c'est cette ingénierie, cette capacité d'intégrer avec les technologies un certain nombre d'activités, de supports, d'activités, sans jamais perdre de vue son objectif pédagogique. Et je vous ai mis une référence, alors vraiment, je vous invite à lire, de Dominique Boulier, La loi du support, où il montre très très bien, et c'est ça le danger, c'est qu'on se laisse porter par le support, d'autant plus qu'il y a beaucoup de supports commerciaux pour ces plateformes, on se laisse porter par le support et on oublie, chemin faisant, ses objectifs, la forme pédagogique, la modalité pédagogique que l'on voulait valoriser, etc., etc. Et je l'ai relu beaucoup de fois cet article parce qu'on manque de recherches de ce type qui sont des recherches très concrètes et précises sur comment on fait quand on le fait. Comment on fait quand on le fait. Et il montre très bien, pourtant c'est quelqu'un qui est à l'UTC de Compiègne, qui est entouré d'un département de cognitif, ils sont tout ce qu'il faut, eh bien, il raconte la difficulté qu'il a eue à mettre un enseignement numérique à distance. Il le raconte donc dans cette revue. Je pense que maintenant, ça doit être accessible sur Internet, parce que comme ça date de 2000, je suppose que l'article... Non, il intervient à Sciences Po. Il intervient à Sciences Po. Mais voilà, alors j'ai exprès, si vous voulez, juxtaposé ces deux choses, parce que c'est vrai que c'est une très bonne définition du design. C'est vrai que le design vous oblige à tenir compte de tout ça, de ces trois choses-là, lieu d'interaction. Et j'aime beaucoup l'idée d'interaction, justement. Hein, c'est pas l'interactivité, c'est l'interaction. Tout ça va entrer, va avoir de l'influence l'un sur l'autre. Les facteurs de la technologie déterminants, comme toujours, le projet didactique et les attentes des usagers. Mais voilà, après il faut le faire, et je ne... Étant donné le peu de temps dont je disposais, je ne pouvais que vous renvoyer à cet article ou aux expériences que vous avez peut-être eues vous-même quand vous avez essayé de construire une plateforme de formation à distance où on essaye de... Ce qui est intéressant en même temps dans ces plateformes, c'est qu'on peut tout contrôler, on garde trace du cheminement des apprenants différents. Et avec ça, on peut faire des recherches, on peut aussi réfléchir en disant, tiens, celui-là, cela, j'ai eu tant de pourcents d'échecs sur cette partie de la plateforme, tant de pourcents d'échecs, il y a donc, c'est très important, on peut aussi contrôler le processus d'apprentissage. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, on échappe toujours. L'apprentissage échappe toujours à celui qui va le contrôler, ça c'est des choses qui m'ont toujours rassuré, quelles que soient les évaluations, etc. Bon, l'apprenant échappe toujours aux intentions de celui qui a conçu et designé sa plateforme, etc. Mais, ce qui est intéressant, je vais y arriver, c'est, ça correspondu à un mouvement, puisque j'ai dit que je ne parlais pas de périodisation, un mouvement qui est toujours valable d'ailleurs, heureusement, il y a toujours des gens qui se coltinent la conception de plateforme, parce que c'est vrai qu'une plateforme, c'est quand même important, puisque, surtout avec les services dont on dispose à l'heure actuelle, du web et d'autres, les forums, etc., on peut designer, on peut construire un ensemble réfléchi en se disant pour cette partie du programme, il vaudrait mieux qu'il puisse discuter, pour cette partie du programme, il vaut mieux que ce soit individuel, pour cette partie... Bon, il y a donc des options à prendre qui sont extrêmement importantes, mais c'est important que ces plateformes existent, mais il y a un mouvement à l'heure actuelle, encore une fois, ça n'efface pas du tout le reste, il y a un mouvement à l'heure actuelle intéressant avec ce que François-Henri, j'ai repris son expression, appelle le boom du web social. Tout le monde appelle ça le boom du web social, le fameux web 2.0 qui permet une collaboration à distance. Je ne lis pas ce que j'ai noté ici, ça donne ce que permet ce web social. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, on va voir d'ailleurs, ça va rendre ces plateformes un peu rigide, perçu comme étant trop rigide par rapport à des pratiques d'étudiants, voire de formés, parce que je suppose que dans les formations non académiques, il y a cette même diversité que dans les formations universitaires. Et ces réseaux sociaux réintroduisent, d'une certaine façon, ou modifient, voilà, je préfère dire modifient, la notion d'auto-formation et d'autonomie qu'on avait en tête, et on parle beaucoup plus à l'heure actuelle, phénomène de mode, je l'ai dit tout à l'heure, de travail collaboratif. J'ai mis entre parenthèses pour ne pas l'oublier, bien que ce soit, je crois, maintenant bien acquis, la différence entre collectif, coopératif et collaboratif. Hein, collectif, on est tous ensemble, coopératif, on répartit le travail, toi tu feras ça, et après on fera, hein. Et le collaboratif, c'est qu'on élabore ensemble, c'est-à-dire on a un projet, on élabore, et c'est là où ça demande, là où les réseaux sociaux peuvent être très importants, c'est que ça demande quelqu'un aussi éventuellement qui anime, mais un échange au fur et à mesure qu'on élabore le projet, qu'on élabore la solution à un problème, qu'on élabore le collaboratif, nécessite, c'est vrai, la collaboration en présentiel, bien sûr, toujours possible, mais quand on est à distance, les outils technologiques peuvent nous y aider. J'ai fait référence, bien sûr, à la théorie pédagogique de référence socio-constructiviste. Je passe vite. Parce que je ne peux pas prendre chaque théorie d'apprentissage. Ce qui est quand même important dans le socio-constructivisme, comme son nom l'indique, parce qu'on pourrait commencer avec Piaget, etc., etc., c'est cette idée justement de collaboration et de collaboration qui permet d'entrer en conflit pas psychologique, malheureusement, il y a aussi ces dimensions, mais on parle plutôt de conflit cognitif. On n'a pas le même point de vue sur un sujet, on apporte une solution qui n'est pas la même que le voisin, on en discute, on revient en arrière, on construit, etc. Et c'est manifestement aussi bien l'évolution des technologies qui rentre en ligne de compte que l'évolution des théories qui entraîne l'autre. On ne sait pas bien, ce qui est certain, c'est que les évolutions technologiques ne sont pas les seules dans l'élaboration à avoir une influence dans l'élaboration, dans l'évolution des formes pédagogiques, et les théories pédagogiques y jouent un rôle aussi essentiel. Le socioconstructivisme est, plus exactement, la notion de collaboration est obligatoirement associée au socioconstructivisme. Mais alors, j'ai fait référence à une recherche qui me paraît intéressante. Je vous donne là aussi, je vous ai donné les références, c'est un livre à paraître, c'est pas passé. Car une des choses qu'on constate à l'heure actuelle par rapport à ces plateformes contraignantes que j'évoquais tout à l'heure, la liberté d'utilisation des réseaux sociaux entraîne une envie de liberté dans l'apprentissage, qui fait que des étudiants déformés, entre eux, indépendamment de l'institution, rejetant l'institution, même si l'institution a créé un forum, généralement maintenant on le fait, on met un forum parce qu'on sait bien que ça va aider, etc. Mais très souvent, les formés ou les étudiants créent à part un forum, par exemple, ou un blog, mais un forum en particulier, pour discuter entre eux et échapper à l'institution. Et ça n'est rendu possible que grâce à ce web social qui vous permet, et ça correspond à des pratiques. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce qui se passe en politique, ce qui se passe dans l'enseignement, ce qui se passe dans les centres de santé, etc., ce qui se passe partout, puisque ce sont des technologies qui sont à disposition du grand public. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça va rétablir de la distance dans la présence. Et il y a des enseignants qui, à l'heure actuelle, constatent, voire souffrent, du fait que, alors qu'ils sont en présentiel avec leurs étudiants, eh bien, en fait, il s'est passé des tas de choses en dehors d'eux, et une distance s'est introduite qu'ils ne maîtrisent plus. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la mesure où là, on voit encore une fois l'importance quand même des outils technologiques. Alors oui, je voulais, par rapport à cette référence, il me semble que je voulais, oui, vous dire, je vous renvoie à l'article, bien sûr, peut-être, ai-je mis un schéma, oui, c'est ça. À l'article est associé ce schéma, et ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est qu'on voit comment, et ça, alors je passe sur la méthodologie qui a été très bien faite, mais je vous renvoie à l'article, parce que ça, ce n'est pas un résultat, c'est le résultat d'une recherche de longue haleine, mais où on a étudié très précisément quelles relations avaient lieu entre les différents participants du forum, et on a repéré visuellement le noyau dur, ce que j'appellerais le noyau dur, mais je crois qu'eux aussi l'appellent le noyau central, ils l'appellent le noyau central, les rouges, c'est-à-dire ceux qui interagissent le plus souvent, ensuite les intermédiaires, les carrés noirs, et les liens hybrides, ce qu'ils appellent les satellitaires, les carrés bleus. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il leur relie au contenu. Et donc, ce qu'ils mettent en évidence, et ça aussi je trouve que c'est très important, c'est que selon le contenu, justement, les focalisations sont différentes. Et ça, je trouve que ça donne une bonne représentation de ce qu'on vit soi-même quand on anime un forum. Quelquefois, ils sont animés. Là c'était un collectif sociétaire, stratégique et régulateur, entre eux. Hein. Ils ont fait ça entre eux, ils ne voulaient surtout pas de l'institution. Et je voulais lire la conclusion de l'article. La participation dans les forums libres, sans assistance de l'enseignant, reste certes, dans le cas étudié, ici pendant plus d'un an et demi de formation, un lieu de rencontre favorable à l'entraide, mais peu propice à une véritable co-construction des connaissances, selon les théories de l'apprentissage, collaboratif. Les apprenants semblent avant tout chercher à créer des liens et à réduire ainsi la distance en tant que composante pesante de ce dispositif de formation. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce qu'à la fois ça montre l'aspect positif, qu'il faut bien évidemment garder, mais l'aspect qui peut être négatif, en tout cas qu'il faut avoir en tête, à savoir peut-être comme d'habitude et comme toujours, la distance ne disparaît pas. Peut-être, et comme toujours, ce qu'on cherche essentiellement, c'est à supprimer la distance, faire en sorte qu'on soit plus présent, et ces forums libres donnent, d'après la recherche en question, très très intéressante, que je vous invite à lire, et bien donnent le sentiment que les participants se sont socialement soutenus, et Dieu sait que c'est très important, ils ont certainement échangé des choses extrêmement intéressantes entre eux, ils ont même, si je me souviens l'article, critiqué le dispositif et fait des suggestions sur l'organisation du dispositif, ce qui peut être aussi une dimension extrêmement intéressante, critique, si l'institution ou le groupe est ouvert, il peut tenir compte des remarques des apprenants et améliorer son dispositif. Je facilite, pour arriver à cette idée que la distance n'est plus conceptualisée comme une absence, je cite France-Henri, je ne suis pas sûr d'adhérer complètement, mais c'est quand même vrai qu'on a beaucoup évolué sur cette notion de distance. Je vous ai donné la définition d'Annie Jézégou. Elle me paraît importante, cette définition, et je trouve que c'est important de dissocier ce que j'ai appelé la présence à distance, qui est ce moment, ce mouvement dans la formation à distance où on a cherché justement à véhiculer les signes de la présence, ce qui est très différent de la téléprésence au sens machinique du terme, car, je vous laisse lire cette définition, grâce aux technologies, parce que ça peut aller jusqu'à la réalité virtuelle bien sûr, la téléprésence c'est du coup une présence médiée par des technologies complètement, hein, et c'est pas seulement le discours qui est médié, ça peut être aussi notamment, j'ai mis lors d'activités, elle a mis lors d'activités collaboratives à distance, par manipulation conjointe, vous avez des TP maintenant, des travaux pratiques, qui peuvent se faire complètement à distance grâce au dispositif de réalité virtuelle. Donc on arrive à un autre niveau de présence, si je puis dire, qui est complètement maîtrisé par la technologie, ce qui ne veut pas dire que ça soit vécu, là encore, comme... il faut toujours faire la différence entre le dispositif tel qu'il a été conçu et celui tel qu'il a été vécu, mais tout de même, arriver, parce que c'était ça la limite, notamment pour l'enseignement des sciences, les fameux TP, les travaux pratiques, il faut bien être ensemble pour les faire, il faut bien manipuler. Eh bien, on peut arriver maintenant avec la téléprésence au sens fort du terme, c'est pourquoi j'ai mis cette définition qui va avec une évolution des théories, ce qu'on appelle aussi le cognitivisme. Je ne me leurre pas sur les termes, c'est quand même important. Ce qui est très important dans les nouvelles théories de l'apprentissage, notamment que j'ai noté pour dire vite incarné, distribué et situé, c'est que la grosse différence avec les anciennes théories, c'est qu'elles prennent en compte le fait que les processus cognitifs ne se font pas seulement dans la tête de celui qui apprend, mais elles interagissent avec les processus qui se jouent à travers les ressources, les données confrontées, etc. C'est cette idée, si vous voulez, que je reprendrai en conclusion, mais que j'ai mis ici, les processus d'apprentissage ne se passent pas seulement dans la tête des gens. Toutes les théories d'apprentissage précédentes, y compris le socio-constructivisme d'ailleurs, reposent sur cette idée que l'être interagit avec sa tête et avec la tête des autres. Et on est maintenant dans une situation où on peut interagir avec des artefacts, comme on le dit quelquefois, avec des objets technologiques et au sens de contenu technologique. Je reviendrai en conclusion. Donc, dire que la distance n'est plus conceptualisée comme une absence, je pense que c'est vrai, d'une certaine façon, mais il faut distinguer, je le dirais, le vécu et l'intention et le vécu. La fin de la distance, je suis obligé d'aller vite, je m'aperçois, quoi qu'on a commencé en retard, j'ai regardé. La fin de la distance, point d'interrogation, je vais aborder deux points, l'hybridité, la fameuse hybridité, et puis... peut-être rapidement en vous renvoyant un article, les questions de proximité. L'hybridité, oui, donc voilà, déjà j'en ai dit deux mots, maintenant comme on est habitué à utiliser les web 2.0 et autres services liés à Internet, on introduit de la distance dans la présence. Bon, j'ai donné suffisamment d'exemples, je ne reviens pas, d'où cette notion de formation hybride, blended learning, j'ai pris bien sûr ce qu'on trouve tantôt un mot, tantôt l'autre, même si on ne connaît pas l'anglais pour pouvoir lire ça, bien sûr. Formation hybride, c'est-à-dire il y a un peu de présentiel et un peu de distance. Alors dire un peu de présentiel, un peu de distance, là aussi, bien sûr, je vais vite si le dispositif est pensé et il y a des règles à tenir. Mais tout de même, c'est pourquoi je vous ai donné les références de ces deux recherches. Il y a une recherche. C'est un collectif en distance, c'est Avoir Toujours, ma référence est là, avec la page, qui a étudié, c'est un grand projet, ISUP, c'est un projet européen de formation hybride, dans l'enseignement supérieur, ils ont étudié un grand nombre de dispositifs de formation dits hybrides. Donc ce qu'on appelle hybride, c'est une partie est à distance, une partie est en présentiel. par rapport à notre problématique, c'est pourquoi j'ai choisi bien sûr de vous donner cette référence, et ils ont vu que sur les six types, ils ont, à travers tous les exemples qu'ils ont analysés, ils ont repéré six types de formes pédagogiques, excusez-moi, CF, qui sont en gradation, depuis les dispositifs les plus transmissifs jusqu'aux dispositifs les plus ouverts. Autrement dit, que ce soit hybride, pas hybride, à distance, en présentiel, etc., comme je vous le disais au début, pratiquement tout est possible, et là, ils ont retrouvé les dispositifs, ça a beau être à la mode, puisque c'est hybride, c'est à la mode, et en réalité, à travers ces dispositifs qu'ils ont étudiés, vous avez les formes pédagogiques les plus diversifiées. C'est pas parce que c'est hybride, c'est pas parce que c'est technologisé, c'est pas parce que c'est hybride, que d'une façon déterministe, ça entraîne telle ou telle forme pédagogique. On pouvait s'en douter d'ailleurs, parce que selon l'antériorité de la formation, c'est pas du jour au lendemain qu'on transforme une formation qui a pris une option, disons, transmissive, qui est une option, qui n'a rien de méprisable, transmissive, ça peut correspondre à un public, ça peut être ce qu'attend un public, ça peut être ce qui est nécessaire à un public, et par ailleurs, des dispositifs beaucoup plus ouverts, qui sont généralement plus complexes, où il y a une diversité d'outils mis à la disposition des formés. C'est, massivement important par rapport au thème de notre après-midi, et j'ai donné aussi cet autre exemple, je trouve qu'ils ont de mieux, c'est leur titre. Performance, c'est super. C'est un dispositif hybride de formation des enseignants. Performance, c'est parfait, on ne peut pas trouver mieux. Je crois que c'est ce qu'ils ont de mieux, d'ailleurs, dans leur dispositif. Mais bon, j'exagère parce que je n'y ai pas participé directement. J'ai eu des informations, mais je n'ai pas participé directement. S'il y a des témoins, ils pourront en dire plus. Qui veut donc former au TIS, au travail collaboratif en réseau. Et je vous ai aussi donné la référence d'un article dans la nouvelle formule distance et savoir, qui s'appelle distance, médiation des savoirs, où il y a un exemple d'une formation hybride pour la formation des enseignants, et où j'ai eu le sentiment, en tout cas, à la fois par les témoignages que j'ai reçus et l'article que j'ai lu, comme toujours, si ça peut être bien ou ça peut être moins bien. J'ai fait la référence et j'ai comparé à un dispositif américain dans l'Ohio que j'avais étudié il y a très longtemps, dans les années 80, où on mettait ensemble ce qu'on appelle des enseignants experts et des enseignants débutants. Je ne pense pas qu'il y avait une différence fondamentale du fait que ce soit hybride. Cela dit, c'est intéressant de tenter ce genre de choses. Là encore, je vous donne cette référence et je vous y renvoie. Oui, c'était le plan TEPOL dans l'Ohio. C'est ça, dans les années 80, pour la formation des enseignants, où il y avait un couple novice-expert. Alors, je dis tout de suite, qu'au risque, je me risque, moi. Et je pense, un peu comme Michael Moore, j'ai quand même des références, Michael Moore, c'est un des grands théoriciens de la formation à distance, le théoricien de ce qu'on appelle la théorie transactionnelle, qui met l'accent sur quel type de distance on introduit entre l'apprenant et... Alors, il a fait cette réflexion, et je ne le savais pas, mais je suis complètement d'accord avec lui, en disant que il parle de l'embrouillamini... j'ai oublié les proximités. J'ai pas le temps. Je laisse. Oui, parce que c'est une autre façon de voir la distance et qui est intéressante, qui est très intéressante, qui est pour moi plus intéressante que l'hybridité. Je vais quand même en dire deux mots. Oui, l'hybridité, que je donne mon point de vue tout de suite, et celui de Michael Moore. L'hybridité, attention, il faut faire attention. Lui, il parle d'embrouillamini des concepts, parce qu'à force de dire hybridité, il y a du présentiel, il y a de la distance, etc. Il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la vraie distance, ça existe. Il y a des gens qui sont séparés par des kilomètres, par des montagnes de neige, par des montagnes de montagne, par etc., etc. Et dire, avec l'hybride, on a un peu de distance et un peu de présentiel, c'est oublier. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça m'énerve un peu, cette histoire d'hybridité. Je veux dire, c'est bien qu'on travaille là-dessus, mais ça m'énerve un peu. Parce que je trouve, d'abord, que c'est une facilité. Parce que la difficulté de la distance, on essaie de la récupérer par le présentiel. Et puis surtout, c'est un leurre par rapport à la vraie distance. Ce qui définit la distance fondamentale, géographique et spatiale, c'est essentiel. Si vous n'avez pas du tout la possibilité de faire que les gens se réunissent, ce n'est pas la peine de nous parler d'hybridité. Bon, donc, c'est peut-être, faut lire tout ce qui s'écrit sur l'hybridité, mais voilà, lui, il dit, ça pourrait faire sombrer, c'est un embrouillamini de concepts générés par l'hybridité, qui pourrait faire sombrer le modèle pédagogique inédit porté par la distance. Et je crois que j'adhère complètement à ça. C'est tout de même très fort. La distance a introduit un modèle pédagogique au sens mathématique du terme, pas un modèle au sens d'exemple, un modèle pédagogique qui a eu beaucoup d'effets effet de provocation, j'en parlais tout à l'heure, effet de recours à des technologies, pousser les technologies, etc., et qui fait que, à trop dire, mais le modèle idéal maintenant, c'est l'hybridité, je pense et je crains que l'on oublie cette force de la distance, à la fois cette contrainte et cette force de la distance qui nous a amené à tant d'innovations dans la formation et qui nous permet aujourd'hui de dire tout ce qu'on dit sur la formation à distance. Voilà. J'étais très contente de trouver, parce que moi je, ça m'énervait, et j'étais très contente de trouver sa position en me disant ben, je suis d'accord avec lui, parce qu'il a quand même beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc l'hybridité, c'est une façon, je disais maintenant, vous souvenez-vous de ma question, c'est le 3, la distance. Est-ce que ça existe encore, point d'interrogation? Donc hybridité, je l'ai vu. La deuxième posture que je trouve peut-être plus riche, plus très intéressante, c'est cette idée de question de proximité. C'est cette idée de cesser de penser la distance par rapport à ceux qui la conçoivent, les dispositifs, les plateformes, etc., mais aller voir du côté de ceux qui travaillent à distance et de voir comment ils organisent les proximités. C'est un changement, bon, c'est Didier Paquin, il dit de paradigme, je pense qu'on abuse trop de cette notion de paradigme, il dit c'est un changement de paradigme. Personnellement, je dirais, c'est un changement de posture, mais qui peut être très productif pour avancer dans ce domaine. Au lieu de se focaliser sur le design, le traitement didactique, la scénarisation pédagogique, il faut toujours le faire, bien sûr, mais allons voir un peu de l'autre côté, on tourne la caméra, on va voir ceux qui apprennent avec ces dispositifs, comment ils se débrouillent pour recréer à travers la distance et les technologies qu'ils ont à leur disposition, comment ils se débrouillent, comment ils s'organisent pour créer ce qu'il appelle des proximités. En distinguant une proximité spatiale, il fait une remarque très intéressante, quelquefois on donne un lieu documentaire en disant vous trouverez tous les éléments dans cette bibliothèque, etc. Et puis la personne en question, ce n'est pas du tout dans cette bibliothèque qu'elle va aller, parce qu'elle est habituée à aller dans une autre bibliothèque, peut-être plus loin, plus près de chez elle ou plus loin de chez elle, peu importe, mais c'est là qu'elle va trouver quelqu'un qui va l'aider, c'est là qu'elle va trouver un documentaliste, c'est là qu'elle va trouver une amie, voilà. C'est une remarque qui nourrit sa réflexion et qui est très intéressante. Il donne plusieurs exemples. Donc, il y a les proximités spatiales, quelquefois, et ça a été mené, c'est une expérimentation, une étude de cas, RuralNet dans un milieu rural, des ruraux expliquaient, disaient qu'ils préfèrent faire des kilomètres et aller dans tel endroit, parce que là, ils savent qu'ils trouveront de l'aide, plutôt que d'aller plus près, parce que là, ils n'auront pas d'aide. Donc, cette idée de proximité spatiale me paraît importante, et proximité numérique. Proximité numérique, c'est tous les outils, forums, blogs, etc., à leur disposition, qu'ils peuvent utiliser ou ne pas utiliser, et pourquoi ils utilisent certains et pas d'autres. Je vous ai mis ici, dans l'expérience qui a été étudiée, c'est une recherche empirique, dans l'étude de cas, c'est une étude de cas, les outils utilisés, la messagerie, le forum et le chat. Et avec ces instruments, les publics en plus particuliers, et c'est pour ça que c'est très intéressant, public de demandeurs d'emploi, Didier Paquin montre très bien comment, au fond, l'essentiel pour ce public, c'était d'assurer un continuum d'activité. Regarder sur la façon dont on organise les proximités au moment où on est en situation d'apprentissage, c'est très révélateur de ce qui manque ou de ce dont on a besoin quand on est en formation à distance. Certains viennent en atelier d'abord en présentiel, mais pas tous. Certains suivent la formation sans présence du tout. Et il met en évidence des différences, justement, selon les supports utilisés. La messagerie est plutôt utilisée pour avoir des contacts avec l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui participent et qui sont extérieurs, alors que le forum est plus utilisé pour le groupe, pour la communauté, etc. etc. Il met en évidence des différences de ce point de vue-là. Voilà, je voulais vous la citer parce que, pour deux raisons, d'une part elle est originale, d'autre part la posture théorique est intéressante, le fait de ce... Et puis, troisièmement, je pense qu'on a trop peu de recherches sur ce type de public. On a beaucoup de recherches, évidemment c'est plus facile, sur les universités, les étudiants, etc. Et c'est un public qui, comme tous les publics, a besoin de se former, a besoin d'utiliser les technologies les plus récentes pour se former, et voilà. J'ai pas mis 6, c'est dans la définition, c'est tout un article sur les proximités. C'était pour répondre à la question « Où va la distance ?» et il répond question de proximité. Et je pense qu'on manque beaucoup de recherches dans ce domaine, de recherches toujours sur ceux qui ceux qui apprennent et comment ils apprennent avec ces technologies. On a beaucoup focalisé jusqu'à présent sur la production, comme avec l'audiovisuel autrefois. On a focalisé sur les produits avant de focaliser sur les récepteurs et ce qu'on en faisait. J'en termine. J'ai voulu scander en trois phrases, puis je n'ai pas pu les mettre sur le même. Il y a deux transparents. Les grandes évolutions. Bon, ce qu'on appelle les grandes évolutions. C'est vrai qu'au début, c'était surtout un individuel synchrone. Bon, ça a été diversifié au niveau des supports. Après, c'est beaucoup plus les plateformes, dont je parlais tout à l'heure, où on essaie de tout rassembler, les dispositifs pour apprendre, les soutiens pour l'apprentissage dans un support unique. Tout est contrôlé et prévisible. J'ai mis point de suspension parce que c'est jamais prévisible. Et puis on arrive maintenant, et ça me paraît important. On arrive avec la généralisation du numérique et des réseaux, à ce que je vous disais tout à l'heure, à une nouvelle conception aussi de l'apprentissage qui se joue pas seulement dans la tête de l'apprenant ou dans la relation, dans l'interaction avec le formateur, mais qui se joue. C'est le sens du dispositif. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur la notion de dispositif. Je ne vais pas vous y renvoyer un numéro de la revue Hermès. Et donc, on arrive à des objets complexes. Ça, c'est important. Ni le formateur, ni le formé ne sont plus le siège exclusif de la capacité d'agir, mais partagent ses attributs avec des objets, les artefacts, les outils. Les outils qui sont mis à notre disposition travaillent avec ce qui leur est donné comme ressources et contribuent à nous renvoyer quelque chose qui est quelque chose de plus que ce avec quoi on travaillait jusqu'à présent. D'où cette idée de connectique. Je ne suis pas trop pour le terme, peu m'importe le terme, le connectivisme dont on parle, mais je pense que c'est... ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'interaction se fait. Et voilà l'avenir. J'arrêterai là parce qu'on en discutera, certainement. L'avenir, bon, moi je ne suis pas Madame Soleil, et donc voilà, il y a plein, je vous donnerai aussi des références pour ceux que ça intéresse, il y a plein de gens qui pensent l'avenir à l'heure actuelle, sauf notre ministère de l'Éducation nationale, ça c'est autre chose, et l'enseignement supérieur, qui ne pense pas beaucoup, là-dessus comme sur le reste. Mais l'avenir, donc je ne vais pas dire, mais il me semble que ça se passe déjà, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on va faire pas seulement des réseaux technologiques, mais des réseaux de centres de formation. Les universités ont besoin de se constituer un réseau. Elles commencent d'ailleurs, vous le savez, dans certaines régions, pas encore à Paris, mais un petit peu, mais ça va venir. J'ai mis entreprise en point d'interrogation parce que je vois mal comment les entreprises peuvent se regrouper, parce que nous, elles ont quand même toujours un problème de concurrence, mais ça, je les laisse discuter. Pour des mises en commun, de cours, etc., je crois qu'on va vers ça. C'est pas être vraiment Madame Soleil que le dire, c'est une tendance qu'on observe déjà et qui va se développer. Mais ce qui est important, c'est la deuxième partie de la phrase. Moi, je dirais, où va la distance? C'est le présentiel. C'est le présentiel qui se mélange avec la distance. Et sauf des cas particuliers, comme je l'ai dit, où il y a vraiment distance, et qu'il ne faut jamais l'oublier, ben oui, il y a de la distance dans le présentiel, par les pratiques déformées, et puis il y a de la distance grâce aux technologies qui sont de plus en plus immersives. Donc voilà, il y a ces technologies, au fond, c'est vrai qu'elles effacent des frontières. C'est vrai qu'elles contribuent à l'effacement des frontières. J'ai récapitulé toutes les frontières qui me semblent être effacées. Ça ne veut pas dire que l'opposition n'existe plus, ça veut dire qu'elle est plus floue. J'ai pu reparler au début du public adulte, du public étudiant versus étudiant, présence, absence versus... Là, j'ai parlé de Michael Moore, embrouillamini des concepts génériques en interrogation, l'individuel et le collectif, les supports, les services, là aussi. La distinction entre support et service, à partir du moment où l'apprenant peut contribuer à l'élaboration de contenu et donc de support, elle devient plus floue qu'autrefois. Synchrone, asynchrone, bien sûr, avec la bonne diffusion qui permet toujours de récupérer ce à quoi on n'a pas pu suivre. Et le grand problème, je voulais développer, mais je n'ai pas le temps, du public privé, le passage aussi du public privé qui paye, qui finance, ce qui est un problème fondamental. Et il y a de plus en plus, là encore, de mixité, de mixage, de formation qui sont prises en charge partiellement par une entreprise pour ses employés ou qui contribuent à la formation du public, etc. etc. Il y a là un éventail de situations qui va se développer, soyons-en sûrs. Moi, j'ajoute toujours, de toute façon, ce qui a de la valeur, à long terme gagne toujours. Et les questions en suspens que vous voyez bien, je n'ai pas traitées parce que je ne pouvais pas tout faire, mais il y a tout le problème des normes, le problème de la qualité, des recherches sur la qualité, le problème des prix, du prix et de la politique éducative, parce que quel que soit le pays et quel que soit le contexte, qu'on soit à distance ou en présence, rien ne peut se faire à long terme et massivement si on n'a pas derrière une politique éducative. J'arrête là, excusez-moi, et merci pour votre... Ça me laisse le temps pour les questions, quand même. On a commencé à 20, hein? Allez, questions.
On a commencé à moins 20, je peux dire.
Oui.
Bien tassé, merci madame, bien tassé. Allez, questions, vite, allez-y.
Merci pour cet exposé qui est très large, qui rend compte de toutes les dimensions des problèmes qui se posent. Je suis consultante en formation, je suis Catherine Arnaud. J'aurais deux questions plus précises à vous poser. La première question concerne justement l'image. Vous avez fait plusieurs fois la vision, le rôle de l'image dans la formation à distance des learning. La question étant de savoir comment l'image de vous rappeler les théories socio-constructivistes de Vygotsky. Bon, on peut rappeler que Vygotsky a dit lui-même que les mots, l'image, les schémas, etc. étaient les outils justement de la pensée. Donc plus la question de l'image dans la femme, c'est de savoir comment on l'utilise. Si on l'utilise pour illustrer, ou si on l'utilise pour aider à mieux construire cognitivement les éléments. Bon, moi j'ai eu des exemples dans des milieux professionnels où on utilise l'image au lieu de pour des concepts qui sont parfois faits. Je pense justement à une formation en électricité dans le cadre de la ZCFA où on avait pu simplifier les choses en mettant les cours sous forme de bulles de dessins animés et où on voit que finalement dans ces bulles il y a un enseignant représenté sous une forme un petit peu drôle qui fait cours, etc. et qui finalement n'atteint absolument pas ses buts parce que la conceptualisation qui était exigée par le contenu était finalement déformée par cette présentation de l'image. Je regrette un tout petit peu, il y a un ouvrage moi, qui m'avait fait bien réfléchir aussi à ces problèmes, qui est celui de Carmen Conte, l'image en mouvement, où elle pose justement toutes ces questions-là.
Okay.
J'aurais une deuxième question beaucoup plus législative sur le droit de la formation.
Oui.
Il y a 3-4 ans, peut-être un peu plus longtemps, dans l'éducation permanente, il y avait eu un article qui différenciait formation à distance et e-learning, en montrant que formation à distance, qu'on entendait par formation à distance, c'était aussi le rôle du présentiel dans la formation à distance. Et là, il était question, et il y avait des discussions, et je crois au niveau européen, selon lesquelles la formation à distance serait reconnue comme formation dans les budgets formation, notamment entreprises, à condition qu'il y ait tel pourcentage de présentiel. Et ça, c'est fondamental, parce que dans les entreprises, moi j'ai des exemples très bons, j'ai un exemple très mauvais d'une grande compagnie internationale d'assurance où le e-learning devient, c'est la formation au poste. Vous parliez des places. Les places, ce sont les responsables hiérarchiques qui les observent, les contrôlent et qui peut déterminer le responsable. Elle apprend bien ou elle apprend pas bien. Elle met longtemps à se mettre tel produit d'assurance dans la tête, etc. Voilà, ça c'est mes deux questions.
Très vite, je vous passe ça quand même parce que je pense que ça pourrait vous éclairer. Si j'ai pas beaucoup j'ai dit que je voulais pas trop citer les personnes présentes parce que sinon, l'ouvrage de Carmen Conte est effectivement important sur l'image en mouvement et les rapports à la cognition, à l'apprentissage. Mais je pense qu'image et pédagogie pourraient vous aider. Je vais répondre. J'ai pas développé parce que justement j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais je voudrais axer sur le schéma, les schémas dont vous parlez. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les schémas et la plupart du temps le schéma est parlant pour celui qui le fait, beaucoup plus pour celui qui le reçoit. Élaborer un schéma, c'est un excellent processus de compréhension. Et que ce soit en électricité ou que ce soit dans n'importe quel domaine, le schéma est à construire. Et si j'utilise l'image, personnellement, si j'utilise l'image à des fins pédagogiques, ça ne sera pas pour seulement montrer un schéma, ça sera, en situation d'apprentissage, ça sera pour montrer comment le schéma a été construit. Et ça, la difficulté à laquelle vous êtes... Ah, vous avez parlé de schéma au début, pardon. Alors, la bande dessinée... Oui, mais alors là, écoutez, ça c'est tout le thème du ludique, du ludo-éducatif. C'est tout le thème du ludo-éducatif. Alors ça, moi, j'ai jamais voulu l'aborder parce que ça, d'emblée, vous comprenez, non. Quand on dit, on va les amuser parce que comme ça, ils apprendront, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est très amusant d'apprendre. Moi, j'ai pas besoin de petits bonhommes ou de petits machins pour apprendre. Si j'ai envie d'apprendre, je n'ai surtout pas besoin de ça. Donc, ça, je crois que c'est une fausse piste. Elle a été énormément utilisée. Elle a été ressassée. On a eu le ludo-éducatif pendant tout le temps. Et ça, en tant que formateur, que ce soit en entreprise ou à l'université ou ailleurs, jamais, mais ça c'est une position, jamais je ne prendrai cette option. Parce que je pense qu'apprendre, c'est jouissif. Ça, c'est ma position de base. Si on vous donne des bons moyens d'apprendre, et tout ce qui est, c'est des habillages. Tout ce qui est l'habillage pour faire bien, pour faire drôle, ça amuse deux minutes. Quelquefois, ça amuse, c'est vrai, mais jamais longtemps. Parce que quelqu'un qui veut apprendre, et vous avez vu ce résultat, les personnes à qui vous destinez cette bande dessinée, ils vous ont très vite fait comprendre que ça ne les aidait pas à apprendre. Donc il valait mieux un tout autre dispositif. Excusez-moi, j'avais noté schéma et pas bande dessinée. Mais je ne peux pas développer, si vous voulez, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Oui, je vois une main qui se lève et qui va répondre. Mais ce que j'aime beaucoup dans votre question, c'est le fait que vous remettiez l'image au centre de la formation à distance. Parce que c'est quelque chose qui est oublié, parce qu'on a l'impression qu'on connaît ce que c'est qu'une image, que n'importe quel public connaît ce que c'est qu'une image. Or, il y a des images extrêmement différentes, il y a des façons de la percevoir et des façons de la présenter, de la construire. Et par conséquent, j'aime beaucoup votre question pour ça. Je réponds donc rapidement, mais j'ai senti qu'une main que j'associe à Carmen Ponte s'est levée pour répondre peut-être à la question, non ? Carmen,
non.
Je ne te vois pas, excuse-moi. Ah, ça y est, je vois ta main,
j'avais trois points que je voulais ajouter à ton exposé.
Vas-y. Pardon, excuse-moi, Carmen. Pour le droit à la formation, je ne suis pas la bonne personne. Parce que je n'ai pas actualisé mes informations. Je pense que Viviane l'est davantage ou quelqu'un de la salle. Sur les nouvelles réglementations, je crois, oui, me souvenir qu'en entreprise, on insiste sur une présence, mais je ne suis pas capable de vous répondre plus précisément.
Effectivement, historiquement, ce serait intéressant de voir votre poids. La formation à distance était complètement
refusée. Absolument, absolument. Et puis maintenant,
maintenant, petit à petit, à travers un certain nombre de biais, tels que l'hybridation d'ailleurs, on a réussi
absolument
à faire un peu admettre. Il n'y en a jamais admis en tant que tel. C'est une présence.
Sur ce point-là, si quelqu'un sait, allez-y, madame. Oui, parce que Carmen, je ne t'oublie pas. Alors voilà, on va se renseigner là-dessus parce que c'est vrai que c'est très important. Et Viviane a raison. Pendant très longtemps, on n'acceptait pas les formations à distance dans les entreprises en disant que... Et maintenant, voilà. Mais il faut s'informer. Excusez-moi, je ne suis pas la bonne personne.
Jacques, tu veux... Aussi, parfait. C'est que l'hybridation est directement venue des modes de financement.
Voilà.
C'est parce que, justement, il fallait des feuilles de présence pour pouvoir marquer... que les centres de formation qui avaient basé au début des années 2000 tout sur l'e-learning sont revenus en arrière et ont introduit du présentiel. Le modèle d'hybridation n'est pas né dans les universités, il est né dans ces centres de formation. Après, les universités campus qui ont voulu effectivement proposer de la formation à distance ont mis aussi en place des modèles hybrides.
C'est pour ça que ça a du succès d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que ça a tant de succès. Absolument, non, c'est très important, c'est pour ça que ça a du succès, parce que c'est soutenu par... Mais est-ce qu'il y a un texte officiel là-dessus, je ne sais pas.
Non, mais le problème de la formation professionnelle, c'est que les OPCA, c'est-à-dire les organismes financeurs,
oui.
Sont libres de définir leurs propres règles
d'accord.
De prise d'acceptation des dossiers. Et les pratiques sont très variables.
Très variables, donc il n'y a pas encore de chasseurs. Ok. Merci bien, en tout cas. Carmen ?
Oui, alors, je voulais en faire pour faire la question de points que j'ai notés sur la mesure. Vous allez trouver que c'est vraiment très intéressant pour un chiffre. Mais je vais me différencier le fait de l'intérêt. collection Hermès de la Voisine, parce qu'il y a beaucoup d'expériments, questions,
c'est vrai.
D'études empiriques, et on n'en parle pas assez parce qu'il y a pas justement ces ouvrages que tu disais longtemps et qui regrouperaient, qui feraient la synthèse un petit peu de ça.
Et tu sais pourquoi, ils sont peu diffusés? Moi, je suis chez Hermès, justement, c'est bien, parce qu'ils sont chers.
Mais oui.
C'est terrible. Non. On est d'accord,
Alors, le point, quand même, je voulais, je parlais de Didier Patelin, et je pense que le mot de proximité, justement, qui t'a intéressé, tu te rappelles que l'expérience que nous avons faite quand j'étais à Paris 7, et dont tu faisais partie, s'appelait « Enseignement à distance de proximité ». On a publié des choses, c'est à l'UNESCO, on a publié l'anglais, c'est pas beaucoup connu.
D'accord.
Et c'était intéressant parce que c'était, on avait fait participer des gens qu'on voulait former, qui n'est pas simplement des concepteurs qui allaient faire une espèce de formation abstraite, etc., mais avoir des gens qui allaient utiliser cette formation. Donc on avait des profs qui, chaque fois qu'on faisait un module avec eux, donc c'était des profs de langue, il y avait 6 langues représentées, on nous avait dit qu'on n'arrivait jamais à faire travailler ensemble des gens, des profs de différentes langues, et ils devaient expérimenter toutes les propositions qu'on mettait sur la formation.
Et donc on a fait un article là-dessus dans le dernier numéro de, comment ça s'appelle, Mediascope.
Oui, Mediascope peut-être. D'accord. Oui, c'est cette idée que la proximité, si je comprends bien, la proximité, je me souviens plus, excuse-moi, mais la proximité était assurée par la présence de gens qui testaient les différentes hypothèses qu'il y avait dans le système.
Oui. C'était une formation à distance, on avait tous les éléments de la distance, mais en même temps, il y avait des regroupements.
D'accord.
Et donc, ces profs disaient, oui, mais attends, il faut se situer à l'époque, c'était 1990.
D'accord.
Et les gens n'avaient pas un ordinateur personnel.
Bien sûr. Bien
donc, c'était Minitel.
Bien sûr.
Et c'était l'ordinateur du proviseur du lycée.
D'accord.
Donc, il y avait des regroupements dans certains lycées.
Parfait. Oui, c'est vrai. Maintenant, je me souviens qu'il y avait un article dans la revue Mediascope. Et comme elle n'existe plus, c'est difficile de donner la référence.
Alors, ça, c'est un premier point. Oui. L'autre point, c'était dans l'avenir. Ce que tu parles,
oui, c'est
de l'avenir. La mise en commun. Nous, on a fait un projet européen, Leonardo, qui s'appelle Convergence.
Oui.
Et le mot indique justement l'objectif de ce projet. C'est qu'on a fait travailler ensemble des universités privées.
Bien sûr.
Des universités étrangères et françaises,
tout à fait.
Deux grandes écoles, il y avait Polytechnique et PHUT, et des entreprises privées. Et on a fait des cours en commun.
Très bien.
Et le problème s'est posé à partir du moment où on a dû traiter les droits européens, les droits.
Certainement. Oui. Là, la dimension juridique. La dimension juridique que je n'ai pas abordée, c'est effectivement une dimension très importante, Carmen. Cela dit, c'est vrai qu'il y a eu, merci, il y a eu beaucoup d'expériences dans les phases intermédiaires que j'ai évoquées. Il y a toujours des innovateurs, et on le sait, on connaît même leur profil maintenant, certains, qui ont tenté des choses qui après deviennent plus banales. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions, informations que vous voudriez donner? Je vais vous répondre. Oui, non, oui, c'est vrai, on sort, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est un des arguments pour résister à la mise en commun. Alors moi, je vais réagir comme je suis capable de réagir, excusez-moi, surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps, très précisément et très directement. J'ai toujours travaillé avec des technologies depuis qu'elles existent et je n'ai jamais compris, sinon, pour des raisons financière, parce qu'effectivement, pour un manuel scolaire, l'enseignant a de l'argent, je n'ai jamais compris la résistance des enseignants à la mise en commun et à l'exposition de leurs cours. Quand on fait une émission de télévision, on s'exposait. Quand on fait un cours qui est mis sur, en ligne, on s'expose. Et je, dans les campus numériques, quand on a travaillé sur les campus numériques, c'est pour ça que je le relis quand même à la pédagogie, ça a été l'obstacle numéro un. On nous a dit, on ne veut pas parce que notre cours, il est à nous, il n'est pas aux voisins. Tant qu'on gardera cette conception extrêmement restrictive de la propriété, parce que comme l'a fait remarquer très justement Michel Serres dans sa petite poussette là, qu'est-ce qu'il fait un enseignant? Il va chercher des informations dans le, quand on dit sur Internet, on emprunte à droite à gauche. Qu'est-ce que fait un enseignant? Il va chercher une référence dans un livre, il va chercher une citation dans un autre, il élabore, bien sûr il élabore quelque chose, mais il élabore quelque chose souvent à partir d'autres ressources. Donc à partir du moment où on est dans un contexte différent, je comprends avant c'était différent, mais dans le contexte dans lequel on est actuellement, à savoir qu'on met de plus en plus à disposition les choses, vous allez maintenant avoir cette nouvelle revue qui est en numérique, à laquelle vous avez accès directement. Les éditeurs et les gens, ils se débrouillent pour trouver les formules économiques, pour trouver les modèles économiques, chacun son travail. Moi, je ne suis pas capable de trouver un modèle économique, mais il y a des gens qui vont être capables de les trouver. Donc, la propriété intellectuelle dans l'enseignement, à l'époque du XXIe siècle, je pense que c'est une question importante, mais c'est une question qui ne pourra être réglée que si on commence à dire, écoutez, bon, moi, mon cours, il est mis à disposition pour les étudiants de Paris 8. Bon, et puis un jour, il y a peut-être des étudiants de Paris 13 qui vont vouloir avoir accès aux cours de Paris 8. Après tout, pourquoi pas? Enfin, je trouve que autant il faut être soucieux quand on est responsable juridique de ce à quoi correspond la propriété intellectuelle, des artistes y compris, hein, puisque c'est surtout ça dont on s'occupe, autant je pense que la frilosité du milieu enseignant par rapport à l'exposition de son cours est un obstacle qu'il faut maintenant largement dépassé. Quand on est habitué justement à la formation à distance, c'est quelque chose avec quoi on a beaucoup plus de liberté. J'ai reçu pendant des années, maintenant ça ne se fait même plus, pendant des années, la TELUC me demandait est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise votre cours pour le master, etc. On me demandait une signature, etc. Maintenant on ne demande plus ça. Il y a un article qui intéresse de X, de Y, on prend l'article et on le... Voilà. Et je pense que c'est comme ça que les formes pédagogiques, pour terminer sur le thème, c'est comme ça que les formes pédagogiques évolueront, à mon avis, si on se décrispe sur cette question de la propriété intellectuelle. Allez-y, allez-y. Non, attends, Carmen, il y a un monsieur qui n'a pas parlé encore. Je vais... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les institutions, c'est très juste. Très juste. C'est l'enjeu économique. Vous avez raison, mais je pense que ça va évoluer. Très franchement. Les éditeurs sont signés, hein, maintenant les livres, moi j'ai signé, ils font ça en numérique, tout ce qu'ils veulent avec, c'est justement, quand vous signez maintenant avec un éditeur, il vous fait signer un papier dans lequel vous dites, je dérègle mes droits de tout, pour tous les supports, etc. Donc c'est ça que je veux dire, c'est une évolution quand même. Pardon. Il faut qu'on les libère. D'accord. Une réponse juste, tu voulais intervenir parce que Carmen a déjà pris la parole. Tu voulais intervenir là-dessus, non? D'accord. On va la prendre. Vas-y. Oui, je veux bien. Carmen? Oui, bien sûr. C'est vrai. Non, mais maintenant, les ouvrages dits scientifiques, ils vous font immédiatement signer quelque chose, ils vous disent vous abandonner pour tout support. C'est une évolution, quand même, énorme. On peut, pour ceux qui avaient des réponses à apporter, oui, le PNEL, mais vous avez raison, vous prenez le PNEL. Monsieur, excusez-moi, vous prenez le PNEL, vous avez raison, le PNEL, de formation à distance prennent cette précaution. Mais la plupart des dispositifs de formation à distance qui se mettent en place.
Tu éteins ça.